Chapitre 2. Fleurissoir ne poussa pas un cri. Sous la poussée de l'Afcadio et en face du gouffre brusquement ouvert devant lui, il fit pour se retenir un grand geste. Sa main gauche agrippa le cadre lisse de la portière, tandis qu'à demi retourné, il rejetait la droite en arrière par-dessus l'Afcadio, en voyant rouler sous la banquette, à l'autre extrémité du wagon, la seconde manchette qu'il était au moment de passer. L'Afcadio sentit s'abattre sur la nuque une griffe affreuse, baissa la tête et donna une seconde poussée plus impatiente que la première. Les ongles lui raclèrent le col, et Fleurissoir ne trouva plus où se raccrocher que le chapeau de castor qu'il saisit désespérément et qu'il emporta dans sa chute. « À présent, du sang-froid, » se dit l'Afcadio. « Ne claquons pas la portière, on pourrait entendre à côté. » Il tira la portière à lui, contre le vent, avec effort, puis la referma doucement. « Il m'a laissé son hideux chapeau plat. Qu'un peu plus, d'un coup de pied, j'allais envoyer le rejoindre. Mais il m'a pris le mien, qui lui suffit. Bonne précaution que j'ai eue d'en enlever les initiales. Mais sur la coiffe reste la marque du chapelier, à qui l'on ne commande pas des feutres de castor tous les jours. Tant pis, c'est joué. Qu'on puisse croire à un accident... Non, puisque j'ai refermé la portière. Faire stopper le train ? Allons, allons, cadio, pas de retouches. Tout est comme tu l'as voulu. Preuve que je me possède parfaitement, je vais d'abord regarder tranquillement ce que représente cette photographie que le vieux contemplait tout à l'heure. Miramar. Aucun désir d'aller voir ça. On manque d'air ici. Il ouvrit la fenêtre. L'animal m'a griffé. Je saigne. Il m'a fait très mal. Un peu d'eau là-dessus. La toilette est au bout du couloir à gauche. Emportons un second mouchoir. Il atteignit dans le filet au-dessus de lui sa valise et l'ouvrit sur le coussin de la banquette à l'endroit où il était précédemment assis. « Si je croise quelqu'un dans le couloir, du calme. Non, mon cœur ne bat plus. Allons-y. Ah, sa veste. Aisément, je la peux cacher sous la mienne. Des papiers dans la poche. De quoi nous occuper pendant le reste du trajet ?» C'était un pauvre veston élimé, couleur réglisse, de drap mince, rêche et vulgaire, et qui le dégoûtait un peu, que l'Afcadio suspendu à une patère dans l'étroit cabinet toilette où il s'enferma. Puis, penché sur le lavabo, il commença de s'examiner dans le miroir. Son cou, à deux endroits, était assez vilainement balafré. Une étroite traînée rouge partait de derrière la nuque et, tournant vers la gauche, venait mourir au-dessus de l'oreille. Une autre, plus courte, franche écorchure celle-là, 2 centimètres au-dessus de la première, montait droit vers l'oreille dont elle avait atteint et un peu décollé le lobe. Cela saignait, mais moins qu'il n'aurait pu craindre. Par contre, la douleur qu'il n'avait pas sentie d'abord s'éveillait assez vive. Il trempa son mouchoir dans la cuvette, étancha le sang, puis lava le mouchoir. « Pas de quoi tâcher un faux col, » pensa-t-il en se rajustant. « Tout va bien. » Il allait ressortir. À ce moment, la locomotive siffla. Une file de lumière passa derrière la vitre dépolie du closet. C'était Capoue. À cette station si proche de l'accident, descendre et courir dans la nuit se ressaisir de son castor. Cette pensée surgit, éblouissante. Il regrettait beaucoup son chapeau souple, léger, soyeux, tiède et frais à la fois, infroissable, d'une élégance si discrète. Pourtant, il n'écoutait jamais tout entier son désir et n'aimait pas céder, fût-ce à lui-même. Mais par-dessus tout, il avait l'indécision en horreur et gardait depuis nombre d'années, comme un fétiche, le dé d'un jeu de tric-trac que dans le temps lui avait donné Baldi. Il le portait toujours sur lui, il l'avait là, dans le gousset de son gilet. « Si j'amène 6, se dit-il en sortant le dé, je descends. » Il amena 5. « Je descends quand même. Vite, le veston du sinistré. À présent ma valise. » Il courut à son compartiment. « Ah ! Combien devant l'étrangeté d'un fait, l'exclamation semble inutile. Plus surprenant est l'événement et plus mon récit sera simple. Je dirai donc tout net ceci. Quand l'Afcadio rentra dans le compartiment pour y reprendre sa valise, la valise n'y était plus. Il crut d'abord s'être trompé, ressortit dans le couloir. Si fait, c'est bien ici qu'il était tantôt. Voici la vue de Miramar. Mais alors, il bondit à la fenêtre et crut rêver. Sur le quai de la gare, non loin encore du wagon, sa valise s'en allait tranquillement en compagnie d'un grand gaillard qui l'emportait à petits pas. L'Afcadio voulut s'élancer. Le geste qu'il fit pour ouvrir la portière laissa couler le veston réglisse à ses pieds. « Diable, diable, un peu plus et je m'enferrais !» Tout de même, le farceur s'en irait un peu plus vite s'il pensait que je lui pusse courir après. Aurait-il vu ? À ce moment, comme il restait penché en avant, une goutte de sang ruissela le long de sa joue. « Tant pis pour la valise, le dé l'avait bien dit, je ne dois pas descendre ici. » Il referma la portière et se rassit. « Pas de papier dans la valise, et mon linge n'est pas marqué. Que risquais-je ? N'importe, m'embarquer le plus tôt possible. Ce sera peut-être un peu moins amusant, mais à coup sûr beaucoup plus sage. » Le train cependant repartait. « Ce n'est pas tant la valise que je regrette, mais mon castor que j'aurais bien voulu repêcher. N'y pensons plus. » Il bourra une nouvelle pipette, l'alluma, puis, plongeant la main dans la poche intérieure de l'autre veston, il en sortit d'un coup une lettre d'arnica, un cachet de l'agence Cook et une enveloppe de papier bulle qu'il ouvrit. 3, 4, 5, 6 billets de 1000 n'intéresse pas les gens honnêtes. Il remit les billets dans l'enveloppe et l'enveloppe dans la poche du veston. Mais quand, un instant après, il examina le carnet Cook, Lafcadio eut un éblouissement. Sur la première feuille, le nom de Julius de Baralioul était inscrit. « Est-ce que je deviens fou » pensa-t-il. « Quel rapport avec Julius ? Billet volé ? Non, pas possible. Billet prêté, sans aucun doute. Diable, diable, j'ai peut-être fait du gâchis. Ces vieillards sont mieux ramifiés qu'on ne croit. » Puis, en tremblant d'interrogation, il ouvrit la lettre d'Arnica. L'événement apparaissait trop étrange. Il avait peine à fixer son attention. Sans doute il ne parvenait pas bien à démêler quelle parenté ou quel rapport entre Julius et ce vieux, mais il saisit ceci du moins que Julius était à Rome. Aussitôt sa résolution fut prise. Un urgent désir de revoir son frère l'envahit. Une curiosité débridée d'assister au retentissement de cette affaire sur ce calme et logique esprit. C'est dit. Ce soir je couche à Naples, je dégage ma malle, et demain je retourne à Rome par le premier train. Ce sera sûrement beaucoup moins sage, mais peut-être un peu plus amusant.